Bonjour, c'est pour une petite annonce. Ancien haut fonctionnaire, ancien ministre, ayant connu quelques déboires, cherche mission au ministère de l'Intérieur ou préfecture de police. Solide expérience des situations d'état d'urgence et de couvre-feu. Bordeaux, Paris 1961. Signé Maurice P. Gretz-Armainvilliers, disponible de suite. Salut Daniel, c'est Hervé de Vèvre près de Vesoul.
Cette musique, ce rock'n'roll, c'est un hymne. Oui, je sais, cela paraît insolite, mais c'est un hymne de hors-la-loi, l'hymne des jeunes gens en blouson noir qui s'exaspèrent à vouloir vivre en marge de la société.
Au fil des semaines, les blousons noirs ont élargi leur champ d'action. Ils ont commencé en jetant des encriers aux terrasses des cafés. Ils ont continué en crevant les pneus des voitures et en volant des scooters, puis... Avec leur arme favorite, la chaîne de bicyclette, les blousons noirs ont attaqué les passants. Cette jeunesse turbulente pose un problème à Monsieur Papon, le préfet de police de Paris.
Troubles sociaux, troubles familiaux, décadence de l'autorité paternelle, c'est ce qu'on a appelé à un certain moment le mythe de James Dean.
L'étendue de ce mal n'est pas tellement importante en regard de ce que peut être la jeunesse française dans son ensemble.
Vous avez raison, la jeunesse française actuelle est au contraire extrêmement forte, extrêmement saine, et je n'en veux pour preuve que l'exemple de civisme et d'héroïsme qu'elle donne tous les jours en Algérie et ailleurs.
Vous arrêtez tous les jours à Paris de ces blousons noirs, vous en relâchez quelques-uns, mais les autres, qu'en faites-vous? Sont-ils considérés comme des détenus de droit commun comme les autres?
Toutes les précautions humanitaires sont prises pour une répression effective et efficace.
C'était pour vous lire un petit texte que j'ai trouvé hier dans une cabine téléphonique du 17e arrondissement. Ordre de mobilisation. Comité citoyen de vigilance du 17e. Les violences des banlieues menées par quelques apprentis terroristes largement manipulés sont aux portes du 17e arrondissement. État d'urgence et couvre-feu ont comme principal objet de rétablir la loi républicaine dans les cités en cassant les gangs et récupérant les milliers d'armes qui s'y accumulent depuis 20 ans. Pour stopper les débordements vers notre paisible quartier, il est temps de vous engager afin d'aider forces de l'ordre et pompiers dans leur difficile mission de protection de nos vies et de nos biens. Le CCV 017 a pour principal objectif d'assurer surveillance nocturne, fixe et mobile, pour donner l'alerte en cas d'intrusion d'éléments hostiles ou de déclenchement d'incendie dans le 17e. Commerçants, résidents, jeunes, merci pour votre participation. Le 17e a besoin de vous. Voilà. Ces contacts téléphone de la mairie du 17e. Vivre ensemble dans le 17e. Génial. Merci. À bientôt.
Bonjour, c'est Nicole de Normandie. Je suis atterrée d'apprendre que la gauche socialiste s'est ralliée à l'idée sarkozyste de l'état d'urgence dans nos banlieues. De la même façon que cette gauche bien pensante, il y a 2 ans, a approuvé l'exclusion de l'école des jeunes filles portant le foulard. Exclusion, répression, stigmatisation. Or, on sait que beaucoup d'enseignants votent socialistes. Mais comment peuvent-ils intellectuellement adhérer à ces idées et ces comportements si violents vis-à-vis d'une partie de notre jeunesse ? Je suis moi-même prof et j'ai vraiment du mal à comprendre cette lâcheté. Quand on croit au pouvoir de l'éducation et qu'en plus on en fait sa profession, c'est inadmissible. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors attention, Rodney King n'est pas mort. Il n'a pas été assassiné par la police. Il a été matraqué assez violemment. Mais bon, c'était pas fatal. Ce qui a provoqué les émeutes, d'ailleurs, c'était pas tellement le matraquage, mais c'était l'acquittement des policiers impliqués dans cette affaire, qui avaient été acquittés de toute charge contre eux, en dépit de la vidéo qui avait été filmée des événements et qui avait circulé, évidemment, sur tous les médias à l'époque.
J'ai récemment appris que la guerre de 14-18 aurait dû s'arrêter au bout de quelques mois, faute de munitions côté allemand. Mais au début du conflit, de l'acier français a été livré par cargo à l'Allemagne. J'ai appris aussi que le bassin minier lorrain de Briey a été ménagé par l'aviation française pour pour que la production d'acier allemand se poursuive. Enfin, les industriels allemands ont livré à la France, via la Suisse, du fil de fer barbelé sur lequel ont séché les cadavres de soldats allemands. Non seulement ce conflit a artificiellement duré pour le plus grand profit de l'industrie de guerre, mais la mémoire des 8 500 000 tués en Europe est aujourd'hui bafouée également au nom du profit. En effet, certaines chaînes de la grande distribution ouvrent leurs portes le 11 novembre et des gens trouvent normal de s'y rendre ce jour-là. La course à l'argent qui a été le moteur de la guerre en bafoue aujourd'hui le souvenir de manière particulièrement cynique. Je tiens mes sources de 3 livres, « Quand on fusillait les innocents » d'Henri Andreau, « Brillet » de Gustave Théry et « Les brouillards de la butte » de Patrick Péchereau. André dans le Cantal, salut à tous.
Voilà, alors écoutez, j'écoute beaucoup les histoires de pacification entre soldats, et je voulais vous raconter celle-ci. C'est l'histoire d'un soldat français qui a perdu sa compagnie en 1914-18, on ne sait pas exactement, et qui marche à l'aveugle dans l'allée d'une forêt, vareuse trempée, fusil retenu à l'épaule. Fusil d'aucune utilité, puisque le soldat n'a plus une seule cartouche. Il marche depuis des heures, mouillé jusqu'aux os, la faim au ventre, l'angoisse aux tripes. Comme dans un mirage, il croit apercevoir une silhouette au bout de l'allée. Il essuie son visage, se frotte les yeux. La silhouette est semblable à la sienne, dégoulinante de pluie, courbée de fatigue, et un instant, le soldat français croit voir son propre reflet. La silhouette qui vient à sa rencontre se redresse pourtant, et la distance s'amenuisant, le soldat français laisse tomber ses doutes, mais pas sa peur. Face à lui, un soldat allemand qui le met en joue. Instinctivement, le soldat français met en joue, lui aussi, avec son fusil non chargé, et pour cause. Les deux hommes ont le temps de se dévisager. Quelques secondes passent, le soldat allemand baisse son arme, lentement, sans baisser les yeux. Le soldat français baisse la sienne, quelques secondes encore. L'un et l'autre se croisent en poursuivant leur chemin. Qu'est-il advenu du soldat allemand? Son fusil était-il chargé? Le soldat français est revenu de la guerre. Avec en prime ces interrogations éternelles auxquelles il se référait encore avant de mourir dans son lit il y a une 15aine d'années. C'est une histoire vraie. Voilà, si vous en parlez, vous pouvez diffuser ce témoignage. Au revoir.
Voilà, toujours cette guerre, cette soi-disant grande guerre qui nous rattrape et qui n'en finit pas, à l'image de la terre, de la Somme, de l'Aisne, de toutes ces régions qui toujours rejette, renvoie inlassablement des fragments, des morceaux, des boutons, des chaussures, des morceaux de chaussures, de mâchoires, de munitions, de bombes, etc. Des années, des décennies plus tard. Mais ce que disait l'auditeur précédent sur l'importance du capitalisme, enfin on dirait croissance aujourd'hui, comme motif et comme raison, entre guillemets, de cette guerre, c'est indéniable. Déjà pendant la guerre de 14, on disait, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Donc on savait très bien pourquoi l'on mourait, ou au moins on pouvait le savoir. Et puis alors, cette observation d'un auditeur sur Rodney King, c'est vrai, je me suis trompé, mistake, et pan sur le bec. Vous avez été nombreux à relever mon erreur, effectivement. Les émeutes de Los Angeles ne sont pas dues à la mort de Rodney King, mais au fait qu'il a été tabassé, même pas qu'il a été tabassé, mais c'est que les flics qui l'ont tabassé aient été acquittés. Merci d'avoir corrigé cette erreur. Aujourd'hui, pas mal aussi, hein, la petite archive que Antoine Chao a trouvée sur Monsieur Papon et les blousons noirs de l'époque et le péril jeune de l'époque. Il y a des comparaison à faire que vous n'avez pas manqué de faire, car on vous connaît, vous et vos oreilles bizarres, amis de là-bas si j'y suis. Donc aujourd'hui, justement, avec ces oreilles bizarres, ces oreilles en coin que vous avez, on va se balader, on va se reposer, on va se balader sous la houlette et sous la direction de Bruno Carpentier. Qu'est-ce qu'il a fait, Bruno Carpentier? Eh bien, il s'est baladé dans les Inuits de là-bas, si j'y suis, dans les voies inouïes, c'est-à-dire ces petites voies qu'on rapporte qu'on rapporte de nos voyages, et des petites voix fraîches, des voix a cappella comme ça, qui sont des moments un peu suspendus, qui ne se reproduisent jamais plus. Voilà, c'est ça la balade du jour. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, je m'appelle Azine. Je suis un peu ému, tu vois. Le couvre-feu, j'ai connu ça pendant la guerre d'Algérie, parce que je suis né en 43, donc aujourd'hui j'ai 62 ans et demi. Je suis marié, comme on dit, une Française, en France. J'y vis depuis 40 ans. J'ai des enfants. Et avec ce couvre-feu, ça me ramène un peu en arrière, quoi. Bon, l'Algérie est indépendante, mais j'ai l'impression que les événements d'aujourd'hui, c'est que l'Algérie, ce problème des gamins de ces banlieues, c'est que la guerre d'Algérie n'est pas finie, voilà. Je me souviens, un jour, d'un édito de Jean Daniel dans le Nouvel Obs, il y a 20 ans, oui, je crois, 80, 82 ou 80, je ne me rappelle plus, qui disait « Immigrés, aidez-nous ». Alors moi, je dis aujourd'hui, Français, aidez-nous, les Français de la... les Français qui ne sont pas ici, aidez-nous à être vraiment Français à part entière, voilà.
Bonjour, c'est Florence, c'est pour annoncer que le repère des amis de là-bas si j'y suis, donc le repère de Strasbourg, se réunira demain, donc samedi 12 novembre, à La Hache, au bar La Hache, rue de l'Ancienne Douane, à partir de 15h. Alors donc demain, 12 novembre, bar La Hache, rue de l'Ancienne Douane, à Strasbourg, à 15h. Merci, au revoir.
Hier, dans l'émission, une directrice d'école décrivait la galère des enfants des cités. Quelques heures plus tôt, le ministre Azouz Begag s'extasiait sur France Inter. 100 000 bourses au mérite. Mais c'est extraordinaire ce que fait le gouvernement. Monsieur Begag fait semblant d'ignorer que dans le système éducatif français, mérite veut dire bon résultat scolaire. Il fait semblant d'ignorer que justement, dans les quartiers sensibles, les jeunes sont dans un environnement géographique, économique et culturel tellement délabré que la grande majorité d'entre eux n'arrivent pas à atteindre ces bons résultats scolaires. Hier, c'est un sociologue qui analysait cela dans l'émission. Un historien pourrait suggérer à nos ministres de relire les ouvrages sur la Troisième République et la presse des années 1880. Jules Ferry instaurait alors l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque, proclamant dans son discours devant l'Assemblée que cette école, en faisant se rapprocher sur les mêmes bancs riches et pauvres, serait le moyen de consolider la République. Le 26 mars 1882, le journal L'Intransigeant lui répondait ainsi. Ignorance et misère ne sont pas synonymes. Et ce n'est pas en ouvrant seulement des écoles qu'on affranchira tant de millions d'hommes que le régime du salariat écrase. Il y faudra des efforts beaucoup plus hardis. 125 ans plus tard, on en est toujours là. Pire, en France, quartier sensible ou pas, il y a longtemps que riches et pauvres ne fréquentent plus les mêmes écoles. Dites, messieurs de Villepin, Sarkozy, Hollande et Kouchner, et les journalistes de la rédaction de France Inter, parlez-nous des écoles où vos enfants sont scolarisés.
Salam.
Là-bas,
six.
Est-ce que vous pouvez chanter pour nous?
That's for the radio.
That's for the radio, yeah.
Yeah, hip hop, the hip to the hip, the hip hip hop. You don't stop the record to the bad man, but I'm dead the bullet to the rhythm.
Thank you. Nice.
Now you can take that.
Thank you. C'est vrai. Le plus souvent, là-bas, si j'y suis, c'est un chevalier errant. Oui, un chevalier errant, selon le scarabée d'Urito, le scarabée d'Urito de la forêt Lacandon, chez le sous-commandant Marco. D'après ce scarabée, le chevalier errant a le devoir de courir le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre endroit où une injustice demeure impunie. Et c'est ça là-bas si j'y suis. Le micro au poing, comme l'épée du chevalier errant justicier, nous fonçons contre les moulins à vent, et l'injustice recule, et le capitalisme a honte, et l'ultralibéralisme s'effondre piteusement. Et la veuve sèche ses larmes, et l'orphelin nous sourit radieux. Et le soir, on rentre au château, mission accomplie, et les pieds gonflés, et les reins moulus, dans nos armures si dures. Et alors, on se fait une gâterie. Oui, non, et pas du tout ce que vous croyez, non? Non. On cherche, dans la besace de nos micros, les petits cadeaux que la vie nous a faits dans la journée. Pas le discours, pas le propos, pas même les mots, mais les bruits. Le paysage sonore, un gosse qui chante dans un ascenseur, la pluie sur la gouttière au-dessus des cadavres, un train qui coupe la conversation, Sacha qui s'y flotte en cuvant dans le transsibérien, Ramonito qui arrête son taxi sur la cordillère et se met à chanter en s'accompagnant d'une boîte d'allumettes avant de reprendre inopinément le chemin. Ou bien à Ispahan, notre guide de la Révolution qui soudain récite Jacques Prévert en relevant son tchador. Ou plus loin encore, à Johannesburg, dans la première prison mixte, 800 noirs et 2 blancs, à travers les barbelés, des détenus rasés, rayés, qui chantent le chant du ghetto. Ou alors à Beyrouth, la nuit, une voix derrière les arbres, ou au Vanuatu, au bord d'un lac, au-dessous d'un volcan, 3 enfants. Ou à Maripasoula, ou dans le train de Diredawa, ou dans le petit avion de le Kishokyo, ou un chant dans une église en planche, ou une voix sous une véranda, même pas une voix, un filet de voix, comme un filet d'eau, comme une source. Et c'est à cette source aujourd'hui qu'on va se tremper les ouïes. C'est une balade qu'on vous propose, une balade dessinée par Bruno Carpentier. Avec des chansons de là-bas, mais des chansons en équilibre, comme la vie, inachevée, comme la vie, sublime, comme la vie, et même comme l'existence. Des chansons sans studio, sans pochette, des musiques qui ne viennent pas d'un disque, mais d'un corps, d'un visage, d'une bouche, d'un souffle, entre les dents, entre les dons aussi, oui, entre les dons, ce don que fait un enfant, vous savez, cet enfant, cette famille qui vous demande de les prendre en photo, vous faites la photo et ils s'en vont. Eh bien, des gens, au cours des kilomètres, nous ont laissé des bruits, des chansons, et c'est ces chansons qu'on va retrouver aujourd'hui. Cette source, Bruno Carpentier, de derrière les fagots, les cartons et les poussières de là-bas, sous cet enchevêtrement de kilomètres, il a creusé, il a démêlé, il a dessiné une balade, seulement les voix. La grâce des voix nues venues des 36 coins du monde et des 13 bouts de la rue, réinventés, revisités, réenchantés, des chants réenchantés, à la fois une balade et une balade avec un L, avec deux, comme vous voulez. C'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Bruno Carpentier, là-bas les Inouïs.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a des idées qui vous traversent l'esprit comme des hérissons traversent la route. Sans trop de raison.
Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Eu cheguei na estação, para a Bahia eu ia viajar. Mas estava muito cedo, menina, resolvi me descansar. Atravessei a rua larga, pra o descanso conseguir. Mas quando olhei pro lado, gatinha, veja que o homem ouviu. Oh, só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Eu já lhe disse, meu bom camarada, com você tô invocado, não posso negar. Sua bochecha é de bom tamanho, você tem corpo estranho como eu nunca vi. Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Só vou sair daqui quando você, bochecha grande, resolveu sair daí. Tum, tum, tum.
Café com nascimento cante. Essa música é como?
Mais lugar dentro, não morrer. Toma xicaca, não me ouve, não me ouve, não me ouve.
And then now. Some people are receptive to the truth.
Il y a la vérité et il y a certaines personnes qui sont réceptives à la vérité.
It doesn't matter who speak it.
Et ça n'a pas d'importance qui l'énonce cette vérité.
Some people are receptive to the truth.
Difil de la grille. Alors, on dit, un courant peut enfiler une aiguille.
Un quoi?
Un courant. En courant, on peut enfiler une aiguille. Vous avez au programme de courir, vous avez aussi au programme d'enfiler votre aiguille. Il vous revient de savoir comment courir pour pouvoir enfiler votre aiguille.
Comment?
Si vous vous êtes dit, parce que je dois courir, je ne peux pas enfiler mon aiguille, vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous êtes dit, je dois courir et je dois enfiler mon aiguille, vous allez le faire. Ça veut dire, en toutes choses, il faut s'y mettre.
Bénin, 1997.
J'aime ton doux murmure, d'où viens-tu, dis-le-moi. Je viens de la montagne, des glaces azurées. En passant par la plaine, j'ai baigné les buissons. La racine du fleur et la fleur du gazon.
Ce que l'on voit devient vrai à partir du moment où on le voit.
Et qu'est-ce que vous voyez une fois que vous êtes passé après l'horizon?
T'as rien d'amoureux, non?
Je ne vois que la mer.
Les anciens qui sont en train de s'interroger dans le feu au milieu, très enfumé, les hommes sont assis dans cette case en paille avec le vent autour. Fait assez doux.
Il y a eu autrefois un diable. Un diable, il mangeait tous les gens de l'île. Alors, il a tout mangé sauf une femme qui a donné au monde deux enfants. Ils s'appellent Kassassau et Kaneoplim. Et là, il les a initiés pour qu'ils tuent ce diable. Ils se sont préparés, ils ont fait le feu, et quand le diable était à Anatom, au bout de Vanuatu, là, au sud, il a vu qu'il y a la fumée qui est arrivée. Et ils avaient mis les lances coupées, préparées, le long de la route. Et quand ils lançaient les lances dessus, leur maman, ils chantaient. Leur maman, ils chantaient, et jusqu'à qu'il achève à tuer le diable, et ils ont découpé, ils ont sorti tous les gens et ils ont repeuplé l'île avec.
Parce que le diable avait mangé tout le monde.
Oui.
Ils ont réussi à le tuer,
oui,
à l'ouvrir. Et tous les hommes sont sortis, les enfants, les femmes qui étaient à l'intérieur du diable sont sortis.
Ils ont repeuplé l'île.
Et on a repeuplé l'île.
Voilà. Donc on appelle ça l'histoire de Taramsimas.
Vous inventez des histoires.
On a inventé n'importe quoi ici pour vivre. Ça fait un mosaïque. On n'en peut plus finir.
Une mosaïque à n'en plus finir, quoi de commun? Quoi de commun entre les sons et les chansons des hommes, entre ces échos du Brésil, du Bénin, du Vanuatu et d'ailleurs? Bruno a essayé de faire une sorte d'international sonore du genre humain sonore, c'est-à-dire la grâce des voix nues, venues d'un peu partout, mais avec la vie autour, c'est-à-dire la rumeur autour. Mais quelle raison avions-nous de partir? Quel vent, rappelez-moi, nous poussait? On n'arrive jamais pour les raisons qu'on avait de partir. On ne revient pas pour les raisons qu'on avait de s'en aller. Quelle mouche nous piquait? À quelle étoile avions-nous accroché nos verdines? Le premier virage tourné, on oublie tout ça. Passer la première dune, agripper les premiers barbelés, écoper les premiers tirs, investi la première grange, franchi les premiers jupons, dormi dans la paille du 1er juillet, on oublie. Quelle détresse avons-nous fui? Quel horizon nous allumait? Même si c'est en tribu qu'on voyage, un enfant à l'épaule, voilà une pluie, voilà une guerre, voilà un anneau d'or, voilà une épidémie, voilà une terre sacrée, voilà un amour. Et l'on sait que l'on n'arrivera jamais pour les raisons qu'on avait de partir. Hasard, nécessité, pente fatale, irréductible destinée, voilà la vérité du parcours. Mais nous ne sommes pas seulement ces fœtus irrésolus. L'amour est enfant de bohème, et même les enfants de bohème ont des lois. Quelque chose penche, quelque chose pense, quelque chose prie, quelque chose ne veut pas plier. Sans mots, le plus souvent sans parti, sans patrie, l'homme descend du songe, et ce songe dit le chemin, et le chemin penche et pense et rêve. Non, nous ne sommes pas seulement ces bouchons résignés, pas seulement soumis au vent, uniquement gouvernés par la tyrannie, les fléaux, les vertes collines et les bordels au Saint-Fleury. Le chemin nous fait, et nous faisons le chemin. Jamais, au fond, ne s'interrompt le secret conciliabule entre la destinée et la liberté. Chacun, chaque jour, sauf sa cohérence. Voilà ce que nous rappellent, voilà ce que nous apprennent les tziganes. On n'arrive pas pour les raisons qu'on avait de partir, on ne revient pas pour une raison qu'on avait de s'en aller.
Et puis après, j'ai rencontré une fille. Elle était toute bleue. Oui. Bleue clair. Et j'ai dit à la fée de rendre ce monde plus joyeux.
Pour rappeler la France, qui n'est pas un pays libre, tant qu'il n'y a qu'à opprimer notre peuple. Mais là, il y a qui dit que la Guyane est différente. Et il n'y a pas dû être mélangé coco et abricots.
Ouais, t'es nous qui sommes.
Guyane.
Ouais, t'es aimé beaucoup.
1997.
C'est dans la ligne.
Tu vois comment vivent les gens ici. Par exemple, on se lève à quelle heure?
On se lève à 6h du matin.
À 6h du matin, on est debout?
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait?
On est autour du feu.
Ouais.
On boit du chocolat, du café.
Ouais.
Et après, on va se laver. Quand on a fini de boire du chocolat et tout ça, on va se laver à la rivière. Et après, quand c'est 8h ou 9h, on est en train de manger.
Déjà?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on a fait comme travail? Est-ce qu'on a commencé à travailler?
Non, on n'a pas travaillé. Et à midi, des fois on mange, des fois on ne mange pas.
Ouais.
Et le soir, on mange et puis on dort.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait comme travail dans la journée?
Dans la journée, on va à la bâtie.
On va au jardin?
On va au jardin. On va jouer au foot, peut-être dans l'autre village. On va dormir tranquillement. On fait la sieste. Et après, on termine notre journée, quoi. Moi, des fois, je vais au bord de la rivière pour pêcher des petits ayas.
Des ayas?
Oui.
Ouais.
Des petits ayas, c'est des petits poissons.
Choupi, 2000.
Some people are receptive to the truth.
Il y a la vérité, et il y a certaines personnes qui sont réceptives à la vérité.
Le temps ne compte pas.
Oui.
Non, ne le pas.
Ça sent le feu de bois un peu partout.
1994.
Les gosses qui jouent avec des cercles métalliques comme ça et des sortes de morceaux de bois, de bambou repliés qui et on pousse. On a un gosse à poil qui se balade tranquillement. Hey, Malé, Malé.
Malé, moi quoi?
Malé, doum, doum, doum. Malé. Quoi? Il est très mignon parce qu'il sort tout droit de la rivière, le môme. Il est tout nu, tout noir et tout mouillé. Retour aux sources aujourd'hui, dans la basse où j'y suis. Retour aux sources de notre boulot, la radio, qui est l'art des sons en un certain ordre assemblé. Et là, Bruno Carpentier les a assemblés autrement. Évidemment que moi, je vois des images. On vient d'entendre il y a quelques instants une femme qu'on avait rencontrée au Sud-Soudan. Une petite femme très mince, très noire, qui était avec ses enfants et qui pilait son île, les seins nus. Toute petite femme avec des tout petits seins. Et entre ses seins nus, il y avait des marques de scarification. Et ces scarifications représentaient un crucifix. Et alors on a essayé de lui demander pourquoi. C'était pas facile parce que cette femme parlait une langue très difficile à traduire. Il fallait d'abord la traduire en anglais, puis après traduire de l'anglais au français. Mais ça a été suffisant, on a réussi à se comprendre. Pourquoi ce crucifix scarifié sur sa peau? Eh bien parce que les croix qu'elle avait essayé de porter autour du cou, on lui volait, on lui arrachait. Alors elle avait trouvé cette solution. C'est une image parmi toutes celles qui surgissent en écoutant cette balade sonore dans les archives et derrière les fagots de la basse où j'y suis. Mais il y a toujours une question qui se pose. Pourquoi on part? Eh ben, on part pour la ramener. Partir pour la ramener, c'est la phrase invisible tatouée sur l'arbre du voyageur. Partir pour la ramener, c'est la devise secrète de quiconque prend la route. De Christophe Colomb à Jeannot, le sex-touriste, du jésuite avec sa mission, au reporter avec ses frais de mission, du réfugié sans papier au touriste terre de contraste, du passeur de cam au camé du caméscope, tous nous partons pour la ramener. Ramener quoi ? Des nouveaux mondes, des boules neigeuses de la Havane, des bons sauvages dans des cages, des diapositives de Trouville, des tombeaux du Christ ou des pacotilles de Duty Free. Ramener de l'encens et de la myrrhe, des fables surtout. Des sacs de fables, des mensonges et des songes creux, de clichés attendus, de reportages comme prévu, d'émotions conformes et convenues, mais aussi parfois des rêveries pas ordinaires qui prennent leur temps à se développer en vous comme une photo ou une maladie. Le voyage, c'est des choses qui existent mais qu'on invente. Des là-bas qui n'existent que si j'y suis. On ne voyage pas si on ne rêve pas le voyage qu'on fait. Je ne parle pas du rêve qui endort, mais de celui qui réveille, en nage, à la gorge, l'hirsute, le traviol, le paracontable, le si beau qu'on arrête de vieillir. Imaginaire, non pas au sens d'image, mais au sens de rupture, d'invention, de résistance, de ligne imaginaux, de première ligne. S'acharner ensuite à mettre ses rêves en chair, en mots, les mettre en forme, en son, en soi, en tous. Voilà une aventure périlleuse et désespérée. En passant la lumière, tout peut s'effriter. Le plus souvent, tout tombe en poussière. Le plus souvent, on évente au lieu d'inventer. Alors, il n'y a plus qu'à repartir pour la ramener.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
إيران 1994.
No.
Vietnam.
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 Vietnam. Vietnam. Vietnam. Vietnam. Vietnam. Vietnam. Vietnam. Anh ca chủ tịch hiến nhà, anh hải cán bộ, anh bà công trường, anh tư bộ đội địa phương, anh nằm du kỳ lập trường đánh cày là ba nơi. Còn anh đưa cháu lúc này chúng không về cuộc đánh cày về cùng. Còn anh đưa bè lanh lưng vào làm liên lạc ở trong sự nhà. Còn em đưa tạm 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 chúng không hô ly giúp dân là phù hồ. Còn anh đưa chín cũ vào làm ba má thề tính cho mọi người. Còn em gái ủ thứ mười tặng gà sán chuột cây cây thế nồng là bạn ơi. Ơn cha ơn mẹ đã đánh, ơn đảng lãnh đạo cha mẹ ra bình an là bạn ơi.
Voilà, la chanson parle, dit que ma maison se trouve à côté du fleuve Da. Il y a une chaîne de montagne, une petite, petite chaîne de montagne.
Il y a
une école. Il y a tous les enfants qui chaque jour vont à l'école.
Et rồi là các em nhỏ là coi như là vừa đi vừa vui đùa đến trường.
Les enfants en allant à l'école, ils jouent entre eux.
Các em học ngoan.
Ils travaillent bien.
Đây là coi như là sau khi là hết kỳ học là các em đều là những học ngoan trò giỏi, được bác Hồ khen.
Et à la fin, ils ont tous de bons résultats et ils reçoivent des compliments de l'oncle Hồ.
Đấy là cái nội dung của bài hát của một người tiếng Mường. Người ta tả lên là
một cái. C'est le contenu de la chanson des Mường.
Đây là người Mường tả lên là cái nội dung của một cái người dân tộc là đi học là như thế.
Tu parles des enfants qui vont à l'école. Ah, c'est un petit peu ça, oui.
C'est le gars de la propagande, là, non? Hein? Il contrôle.
Non, parce que ces chansons en main sont. Elle a chanté en vietnamien, là. En vietnamien normal, et il y a un peu.
La France.
Afrique du Sud, 1992.
In the ghetto, when you're born and great, you go one morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. She doesn't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto, people don't you understand, their child is a helping hand. He'll grow to be a hungry young man someday. Take a look at you and me. Are we to blame? see. Do we simply turn our heads and look the other way? As the world turns in the ghetto, when the hungry young man with the running nose plays down the street as the cold wind blows in the ghetto.
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 In the ghetto. To roam the street at night, he learns how to fight, he learns how to steal in the ghetto. In the ghetto. Voilà, merci à tous, merci à toute la planète là aujourd'hui. C'était une émission de Bruno Carpentier, réalisé par Bruno Carpentier. Je vous rappelle que notre invité hier, le sociologue Laurent Mucchielli, sera présent demain matin dans Parenthèse, l'émission de Laurence Luret, à 8h45 demain matin sur France Inter. Et puis les bouquins de Laurent Mucchielli, qui est chercheur au CNRS, c'est le « Violence et insécurité, fantasme et réalité dans le débat français ». Qui éclaire pas mal ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Julien Chabassu. Réalisation, Antoine Chaouyan-Chouquet. Assistante, Pascal Pascariello. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi. Pour Là-bas si j'y suis, à 17h. Je vous laisse, il n'y a pas de pub aujourd'hui, avec Bruno Duvic pour les informations. Salut.